إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. Aujourd'hui, inshallah, on va parler du chapitre de la connaissance des impuretés. Et ce chapitre est très important, car avec ce chapitre, on connaît qu'est-ce qui est najis, de ce qui ne l'est pas. On a besoin de connaître quelles sont les impuretés, premièrement, car les impuretés sont haram à manger. Donc, en connaissant les impuretés, on sait qu'on n'a pas le droit de les manger ou de les boire. Deuxième chose, on est obligé de purifier son corps ou ses vêtements ou l'endroit où on prie de ces impuretés pour pouvoir faire la salat. Donc, si on ne connaît pas ces impuretés, comment on va savoir est-ce qu'il faut les purifier ou non? Première chose dont on va parler, c'est sur le reste d'un liquide qu'un être humain a bu. Donc, première des choses, c'est pur. Que la personne soit un musulman ou un kafir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé de se marier avec la juive ou la chrétienne. Si le sur du kafir c'était impur, alors imagine, tu te maries avec elle, comment tu pourrais faire? Tu vas boire derrière elle? C'est ta femme, tu vas t'approcher d'elle? Et si aussi, tout ce qui sort d'un kafir, comme sueur, salive, c'était impur, alors Allah Ta'ala nous aurait pas autorisé de manger leur ta'am. Par exemple, un chrétien ou un juif égorge une bête sans la tuer d'abord, parce que sinon c'est une maïta. Et pas pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nourriture pour nous est halal. Donc c'est sûr qu'avec leurs mains, ils vont toucher. Donc si leur sueur ou leur salive était impure, alors Allah Ta'ala nous aurait pas autorisé de se marier avec les femmes d'Al-Kitab et de manger leur nourriture. وكذلك c'est connu من الصحابة رضي الله عنهم dans les marchés, ils achetaient aux gens du livre, ils leur vendaient des choses. Donc s'ils étaient najis, ils n'auraient pas pu les toucher. Tout ce qui touche d'eux, ils vont le laver, ils vont leur serrer la main, ils vont se laver. C'est des choses qui sont tous les jours pratiquées. Donc si c'était impur, il y aurait clairement des versets ou des hadiths qui parlent de ça. Mais quand Allah Ta'ala dit les associateurs sont najis, sont impurs, c'est une impureté morale et ce n'est pas une impureté physique et matérielle. C'est la croyance qu'ils portent qui est impure. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit ils sont impurs. De même, la femme, si elle a ses règles, ce qui sort d'elle comme salive, etc., c'est encore pur. Car Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, je buvais dans un verre alors que j'étais en période de règles. Et je donnais mon verre au prophète, alayhi salatu wassalam, et il buvait au même endroit où j'avais bu. Donc si c'était impur, le prophète, alayhi salam, ne l'aurait pas bu à cet endroit. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Une autre chose, le croyant, il n'est jamais impur. L'impureté morale, mais aussi ce qui sort de lui, ce n'est pas impur. Il peut être en état d'impureté rituelle, c'est-à-dire il a besoin de faire le rusl, mais lui-même n'est pas impur. Et ce qui sort de lui n'est pas impur. Et ce qu'il touche n'est pas impur. Il est dans un statut d'impureté quand il doit faire le rusl. Car Abu Huraira radiallahu anhu, une fois, n'a pas passé salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il lui a répondu salam. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi tu m'as pas dit salam? Il a dit, j'étais impur, ya Rasulallah. Je n'ai pas voulu te passer salam alors que j'étais impur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mu'minu la yanjas. Le croyant, il n'est jamais impur. Pour lui dire que tu pouvais me passer salam. L'impureté, c'est un statut d'impureté. Tu as besoin de faire le rusl, mais ce que tu touches, ta salive, etc., ce n'est pas impur. Kadhalika, une kafira, elle veut allaiter ton enfant. Est-ce que ce lait-là, il est pur? Oui, il est pur. De même, tout ce qui sort de l'être humain, la base c'est que c'est pur. Et on a besoin de savoir ça pourquoi. Si demain on te propose une greffe d'organe, Allah salam wa al-afiyah, Inch'Allah on n'a pas besoin de se faire greffer. S'ils veulent te greffer un organe, Tu vas lui demander, attends, est-ce que cet organe, il vient de chez un kafir ou il vient de chez un musulman? De toute façon, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Donc, il est permis de se faire greffer un membre, même s'il vient d'un non-musulman. Deuxième chose, le vomi. Est-ce que c'est pur ou c'est impur? Dans cette mas'ala, il n'y a pas un hadith ou une ayah qui parle clairement, mais la majorité des ulama, ils considèrent que c'est impur si c'est une grande quantité. Pourquoi? Ils font l'analogie, le qiyas, avec les excréments. Ils disent car c'est de la nourriture qui a changé. Même si elle n'a pas complètement changé, elle a changé déjà. Certains ulama, comme Ibn Hazm, considèrent que le vomi du musulman, ce n'est pas impur. Et d'autres, même parmi comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, considèrent que ce soit musulman ou non musulman, le vomi, ce n'est pas impur. Il dit car, al-aslu fil ashi al-tahara, il n'y a pas de nas qui dit que c'est impur, donc ça reste pur. Voilà que la majorité considère que c'est impur quand c'est une grosse quantité, donc vaut mieux s'en écarter, inshallah. Troisième chose, al-mani, le sperme. Est-ce que c'est pur ou impur? Il y a divergence entre les savants. Wa-sahih min al-mas'ala, inshallah, c'est que le mani, c'est pur. Car Aïcha radiallahu anha rapporte, je frottais le sperme quand il était sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était sec. Et je le lavais quand il était humide. Hadith sahih. Si c'était impur, le frotter, ça n'aurait pas suffi. Autre chose, il est rapporté d'une chaîne de transmission véridique. Car Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, a été demandé sur le mani qui touche le vêtement. Il a dit, c'est comme le crachat ou la morve. Il te suffira de le frotter ou de le nettoyer. Bien sûr, Aïcha, radiallahu anha, le lavait. Et elle le frottait. Donc, pour être sûr de sortir de la divergence entre les savants, on l'enlève. Personne n'aime marcher même avec un crachat sur son vêtement, de même le mani. Mais ces choses-là sont bonnes à savoir des fois dans certains cas où on n'a pas le choix. On est avec un vêtement qui est taché et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas le laver, on doit faire la prière, comment on fait? Quatrième chose, le wadi, c'est ce qui sort après avoir fait ses besoins. C'est un liquide épais et blanc, très blanc. Ça sort rarement, des fois quand il y a une grande fatigue, ou quand quelqu'un il a fait ses besoins aux toilettes, ça sort après. Ça, c'est impur. Walakin, si quelqu'un il a le wadi qui sort, il n'a pas besoin de faire le ghusl. Il lui suffit de laver ses parties et de faire le wudu. C'est tout. De même, le madi, c'est ce liquide fin et transparent qui sort inda shahwat al-sughra, quand il y a des petits plaisirs. Ce n'est pas le grand plaisir. Par exemple, la personne, dans les préliminaires, avant de faire l'acte avec sa femme, ce liquide sort, ou quand des fois quelqu'un a dépensé, ou etc. C'est un liquide transparent, qui sort en petite quantité en général, c'est pas une grosse quantité comme le mani, et ce liquide-là est najis, est impur, walakin il ne nécessite pas le ghusl. Il suffit de se laver les parties, laver le vêtement qui a été touché par ce liquide, et faire le wudu. C'est tout. J'ai rencontré beaucoup de gens qui masakinent, faisait le roussel au moins 5 fois ou 6 fois par jour à cause de ça. C'est des choses, on est obligé d'en parler. Si tu n'en parles pas, comment tu vas savoir? Il y a des gens qui disent, ah non, la chouma, moi j'en parle pas. Peut-être il est najis du matin au soir, il sait même pas. Ou peut-être il est en train de faire le roussel du matin au soir pour rien du tout, il sait même pas. Ou il y a des gens, ils ont délaissé le salat juste à cause de choses comme ça. Elle m'a dit, il faut savoir mes frères, ça peut arriver chez les jeunes d'avoir beaucoup de madi. C'est pour ça Ali, radiallahu anhu, il a dit, j'étais un homme, j'avais beaucoup de madi. J'ai eu honte de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que je suis marié à sa fille. Il a dit, alors j'ai envoyé quelqu'un. Je lui ai dit, va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, c'est sa fille. Il a eu honte. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit, il te suffit de laver tes parties, de jeter de l'eau sur l'endroit qui a été touché par le madi et de faire l'eau. Donc, il y a deux règles dans le madi. Celui qui en a rarement, il lui est obligatoire de laver l'endroit qui a été touché. Il ne suffit pas de jeter de l'eau dessus. Par contre, celui qui en a souvent, il lui suffit de jeter de l'eau dessus et il n'est pas obligé de laver le vêtement. Mais pour le reste, ils sont pareils. Ils lavent leur partie et ils font l'eau, obligatoirement. Ce hadith que j'ai cité, il est rapporté par Abu Daoud. C'est un hadith hassan. Cinquième chose, c'est connu, c'est les besoins de l'être humain. Son urine ou ses excréments, c'est impur. Et bien sûr, ça nécessite l'eau. An Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le hadith muttafaqun alayh. Le prophète alayhi salam est passé à côté de deux tombes. Il a dit, ces deux-là sont en train de se faire châtier. Mais elles ne se font pas châtier pour quelque chose qui paraît grand à vos yeux. Il a dit, l'un d'entre eux ne se nettoyait pas bien quand il faisait ses petits besoins. Ou dans une riwaya, il ne se cachait pas quand il faisait ses besoins. Il ne se lavait pas du tout. Mais ça rentre aussi la estanzihut, c'est-à-dire le fait de ne pas faire prêter attention d'être pur à cet endroit. Bien sûr, il ne faut pas exagérer. Allah subhanahu wa ta'ala te demande des comptes que sur ta connaissance, sur ce que tu vois ou ce dont tu es sûr. Il ne faut pas que tu commences à avoir des doutes, ouvrir la porte à Shaitan. Ah, est-ce que j'ai encore des gouttes? Il y a des gens, masakin, ils utilisent le papier toilette jusqu'à qu'ils se blessent. Tellement ils ont des waswas. Jusqu'à la fin, après, ils ont des pertes. Ils n'arrivent même pas à contrôler ces pertes-là. Donc il te suffit de te nettoyer avec de l'eau ou même avec un Kleenex ou un papier, c'est suffisant. Quand on utilise une matière sèche, solide, pure, minimum 3 fois. Après, selon le besoin. Première fois pour enlever l'impureté, deuxième fois pour nettoyer l'endroit, troisième fois pour la sécurité. Par contre, il y a un hadith sahih. Si par exemple un jeune enfant est allaité et c'est un garçon, tant qu'il ne mange pas de nourriture, qu'il boit que le sein de la mère, il n'est pas obligatoire de laver l'urine qui te touche de lui. Il te suffit de jeter de l'eau dessus. Sixième point, c'est el meita. C'est toute bête morte, de mort naturelle ou bien étouffée, qui n'a pas été égorgée selon le rite islamique. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit clairement,
dans le sens des versets,
dit, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé quelque chose d'illicite à manger, sauf ce qui est d'une bête morte, du sang coulé ou la viande de porc, car c'est impur. Aussi, s'il a été coupé de la bête alors qu'elle est vivante, c'est considéré comme meita. Par exemple, un bras ou une jambe a été coupée de la bête alors qu'elle est vivante. Alors ce bras-là est haram à manger, car le prophète alayhi salam l'a dit. Et ça, c'est un châtiment pour la bête, vous imaginez? Par contre, il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans le meita. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Karim, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Donc, l'aswaf, ou l'ash'ar, toutes ces choses-là, ça ne rentre pas partie de l'meïta, même si ça a été d'une bête non égorgée. Par exemple, la laine, qui a été prise d'une bête non égorgée, ou ses cheveux, ses poils, tout ça, Inch'Allah, c'est pur. Hein? Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a rajouté à tout cela, toute chose qui ne garde pas en elle le sang, c'est pur. Les cornes, pareil, le poisson, même s'il est mort, il est halal. Car le prophète, alayhi salam, a dit dans le hadith sahih, l'eau de la mer est pure et sa bête morte est halal. Parmi les choses qui sont exclues, des choses illicites parmi les meïta, la peau tannée. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, si la peau est tannée, elle est purifiée. Sur cette question, il y a plus de 16 paroles différentes entre les ulama. En bref, Inch'Allah, toute bête dont la peau a été tannée, égorgée ou non, halal à manger ou non, cette peau est pure. Il y a ikhtilaf pour la peau aussi du chien et du cochon. Certains disent que si elle est tannée, elle devient pure. Il y a certains ulama qui considèrent que le cochon et le chien sont des animaux qui ne peuvent pas se purifier. Donc c'est pour ça, le plus sûr c'est de délaisser. Laisse ce qui est douteux pour ce qui n'est pas douteux, comme le prophète alayhi salatu wassalam a donné comme conseil. Les gants en croûte de cochon, les sacs à main et les chaussures en croûte de porc à délaisser. Mais si quelqu'un, il insiste à avoir ça, on ne peut pas lui dire clairement que c'est haram. Aussi, parmi les choses, Inch'Allah, qui sont halal, même si elles sont mortes, tout insecte qui n'a pas une circulation sanguine. Ils ont du sang, mais ils n'ont pas de circulation. C'est halal. Quelqu'un, par exemple, il a besoin de manger ça. Il mange au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est déjà arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été autorisé 2 bêtes mortes et 2 sangs. Le poisson, la sauterelle. Tout ce qui est comme la sauterelle, qui n'a pas de circulation sanguine, c'est halal. Les escargots, et un grand khilaf sur la question des escargots, Allahu a'lam, vaut mieux le délaisser. Au passage, les grenouilles, c'est haram. Car le prophète alayhi wa sallam a interdit de tuer les grenouilles. Donc s'il a interdit de tuer, je ne vois pas comment tu peux le manger. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين. Alors il faut voir, est-ce que cette graisse a été transformée? Est-ce qu'il y a eu une transformation chimique? Si elle a perdu son état originel et qu'elle n'a ni goût, ni l'odeur, ni la couleur, ni les caractéristiques de la graisse qu'elle avait auparavant, qu'elle a changé, comme par exemple le cas des émulsifiants qu'on mange dans nos nourritures, monodiglycérides, d'acide gras, etc. E471, E460, tout ça, ça vient de la bête morte. Walakin, les ulama ont dit que c'est halal, car ça a changé. Ils ont perdu toutes ses caractéristiques. Par contre, s'il n'est pas transformé, c'est impur. Premier avis, et ça tout le monde est d'accord. Si le vinaigre s'est fait tout seul, c'est halal. S'il ne s'est pas fait tout seul, c'est haram. Deuxième avis, si c'est les koufars qui l'ont fait, c'est halal.
Si c'est le musulman qui l'a fait, c'est haram. Pourquoi? Parce que si c'est le musulman qui l'a fait le vinaigre, il a dû avoir du vin pour faire du vinaigre. Et c'était haram pour lui d'avoir du vin et de le transformer en vinaigre. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a une personne qui est venue le voir. Il lui a dit, il y a ces orphelins, leurs parents, il a laissé son père, il a resté en héritage le vin. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le transforme en vinaigre? Il y en a, il lui a dit, transforme-le en vinaigre, garde-le. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, verse-le. Parce qu'il va garder du vin chez lui. Et c'est interdit à un musulman de garder du vin. Parce que le vinaigre, avant d'être vinaigre, il est vin. Après, il devient vinaigre. C'est pour ça qu'on dit vinaigre d'alcool. Et le troisième avis, ils disent que ce soit fait par un musulman ou un non-musulman, c'est halal. Sauf que si c'est un musulman qui le fait, il est pécheur. Mais le produit en lui-même, il reste halal. Vous avez vu les trois avis? Wallahu a'lam. Moi, je pense que le vinaigre, c'est halal. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, a dit, quel bon plat que le vinaigre. Deuxièmement, quelle différence entre un vinaigre fait tout seul ou fait par un être humain? À la fin, c'est le même produit. Le fait de le faire, ça peut être haram, mais le vinaigre à la fin, c'est halal. C'est plusieurs étapes. D'abord, il est jus, après, il devient alcool, il s'alcoolise, après, il devient vinaigre. Wallahu ta'ala a'lam.